Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Claire Durieux, directrice de la mission interministérielle. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes de retour sur le territoire. C'est votre troisième séjour. Vous restez cette fois-ci jusqu'au 17 octobre. Alors rappelez-nous l'objectif de cette mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie. On en a déjà parlé, mais c'est en fait d'accompagner la refondation du modèle économique et social. Et donc, en fait, c'est un exercice sur le long terme.
Oui, exactement. C'est exactement ça. La volonté, c'est pas de se substituer aux élus, aux acteurs du territoire, mais c'est de les accompagner, d'apporter l'expertise, s'ils le souhaitent, pour accompagner la refondation du modèle. Et par ailleurs, il y a aussi un deuxième objectif, puisque c'est une mission de l'État, qui est de conseiller le Premier ministre, les ministres, leur cabinet au niveau national, sur l'appui financier et économique à apporter au territoire.
Alors la mission interministérielle, elle a été créée au mois de juin par le Premier ministre. À l'époque, c'était François Bayrou. Maintenant, c'est Sébastien Lecornu. Il n'y a toujours pas de gouvernement constitué. Est-ce que ça change quelque chose pour vous et pour la mission interministérielle, ou est-ce que vous êtes inamovible, quels que soient les gouvernements en métropole ?
Alors, je ne suis pas inamovible, évidemment, mais comme je ne suis pas dans un cabinet ministériel, même en cas de remaniement ou de changement de gouvernement, tant que le décret de constitution de la mission n'est pas abrogé, la mission se poursuit. Donc la mission se poursuit, je vous le confirme.
Et c'est un avantage d'avoir cette stabilité, ça permet aussi pour la Calédonie que pour vous, j'imagine, de voir les choses un peu sur le long terme.
Quoi. Je pense effectivement que c'est important d'avoir une administration, entre guillemets, parce qu'on est un tout petit service de l'État, il y a 10 personnes, mais d'avoir une administration au niveau interministériel qui continue à suivre dans la durée les sujets calédoniens. Ouais.
Alors vous connaissez bien la situation de la Nouvelle-Calédonie et cette semaine, le CEDOM vient de confirmer que l'économie avait connu en 2024 sa pire récession depuis plus d'un demi-siècle en raison des violences insurrectionnelles. Il parle d'une chute de 13,5% du produit intérieur brut. Est-ce que vous devez également, parce qu'on parle du long terme, mais est-ce que vous devez également répondre à la situation de court terme, c'est-à-dire au redressement, à la reconstruction de l'économie ?
Alors oui, absolument. Donc pas juste moi, évidemment, mais c'est très important d'avoir des réponses de très court terme parce qu'il y a des sujets qui sont très urgents. Donc en particulier, je pense à la situation du nickel. Je pense à la situation des finances publiques dès 2026 en Nouvelle-Calédonie, que ce soit celle du gouvernement, des provinces ou des communes. Et puis bien sûr, il y a une troisième urgence immédiate qui est la question de la relance des investissements pour faire repartir la consommation, faire repartir l'économie, éviter qu'il y ait des pertes durables, des destructions durables de l'appareil productif, donc des entreprises tout simplement, ainsi que des exploitations agricoles.
Et pour permettre cette relance, est-ce qu'il est prévu, ça avait été évoqué à un moment, des grands travaux, des grands investissements ou publics au niveau de l'État ou venant des collectivités calédoniennes qui seraient aidées pour cela ? Est-ce que c'est prévu pour la relance à court terme ?
Alors, peut-être rappeler déjà ce qui a déjà été fait sur le sujet. Vous le savez, j'étais venue pour la première fois justement à l'été 2024 dans ce cadre-là. Il y a des dispositifs d'urgence qui ont été mis en place par l'État pour soutenir les entreprises, soutenir l'économie dès les émeutes, dès juin 2024. Donc des dispositifs en subvention directement versés aux entreprises par l'État pour leur permettre de redresser, de garder un petit peu la tête sous l'eau, on va dire. Ensuite, il y a eu également, dans la loi de finances 2025, une enveloppe très significative qui a été prévue par le Parlement pour la reconstruction des bâtiments publics en Nouvelle-Calédonie. Donc ça aussi, c'est de l'argent injecté directement pour reconstruire les bâtiments, réparer les dégradations, reconstruire littéralement, et qui permet aussi de faire tourner l'économie. Peut-être donner un chiffre qui, je pense, est assez parlant. En 2024, les transferts de l'État, tout compris, y compris pour le nickel, pour le sauvetage des finances publiques calédoniennes, les aides directes aux entreprises, etc., c'était 2,7 milliards d'euros. Donc ça fait 324 milliards de francs CFP de transferts de l'État rien que sur l'année 2024. Alors qu'en temps normal, on est plutôt autour de 1,6 milliard d'euros de transferts de l'État. Concrètement, c'est 30% du PIB de la Nouvelle-Calédonie en 2024 qui venait de l'État. Donc c'est un franc CFP sur trois en Nouvelle-Calédonie qui a été dépensé l'an dernier.
Mais déjà, quand on parle du PIB de la Nouvelle-Calédonie, il y a comme déjà une grande partie dans ce PIB qui fait partie des transferts de l'État. C'est toujours un,
bah là,
un chiffre un peu compliqué. Ah, voilà.
En temps normal, c'est 16%. Voilà. Et là, c'était 30%. Ouais. Donc un soutien qui a été doublé. Après, pour répondre à votre question, donc il y a déjà eu des soutiens, des actions de relance, y compris de reconstruction. Et ensuite, pour ce qui concerne la suite, pour ce qui concerne 2026, c'est une discussion que va devoir avoir le Parlement sur la base du texte qui sera proposé par le gouvernement. Ma responsabilité en tant que service administratif, c'est de regarder avec les autres services de l'État, hein, puisque je le rappelle, on travaille en lien très étroit avec les services du haut-commissaire, de regarder quels seraient les projets qui auraient du sens d'instruire, pour pouvoir proposer au gouvernement national des projets qui pourraient avoir du sens, et ensuite il leur appartiendra de décider. Mais parmi les autres projets d'investissement qui sont d'ores et déjà décidés, il y a par exemple des investissements très significatifs qui sont prévus sur toute la période, hein, 2024-2030, par les services régaliens, notamment les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il y a un chantier à l'artillerie qui est en cours. Il y en aura d'autres dans les années à venir. Voilà.
Il y avait un projet de prison, on ne sait pas où ça en est. Ça fait partie également là, du régalien. Ça pourrait être également un grand projet de relance.
C'est tous les sujets sont regardés effectivement dans cette phase d'instruction. Ensuite, comme je le disais, il appartiendra au gouvernement national et au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances 2026, de décider de l'enveloppe et des projets.
Et vous attendez des suggestions de la part des collectivités locales, les communes, les provinces, qui pourraient vous suggérer des grands travaux qui pour elles seraient importants et que l'État pourrait contribuer à financer ?
Alors, effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir assez largement, pas uniquement effectivement auprès des collectivités, gouvernements, provinces, communes, mais également auprès du monde économique. Par exemple, ce matin, pouvoir recueillir tout ça et d'en faire l'instruction. Le monde économique a souvent de très bonnes idées sur les investissements qui seraient utiles pour développer l'économie. Donc par exemple, ce matin, j'étais à Boulou-Paris avec des agriculteurs avec qui on échangeait sur quels pourraient être des investissements structurants qui, vraiment de manière structurelle, permettraient d'améliorer la productivité de l'agriculture et donc d'améliorer l'économie du territoire à moyen et long terme. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est que dans la sélection des éventuels projets, c'est qu'on ait l'obsession de savoir quel est le retour sur investissement. Est-ce que c'est juste un projet qu'on finance pour faire marcher le BTP à très court terme, mais qui ensuite crée des charges de fonctionnement qui sont insupportables pour le territoire et n'améliorent pas la croissance et l'emploi à long terme? Ou est-ce que ce sont vraiment des projets qui à la fois font marcher le BTP quand on les construit, mais qui ensuite améliorent la richesse, enfin augmentent la richesse du territoire? C'est vraiment cette deuxième catégorie de projets qui, il me semble, sont les plus intéressants à regarder.
Alors, vous étiez venu au mois d'août, hein, je crois,
oui,
sur le territoire.
Ça.
Depuis cette époque, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes reparti à Paris,
oui.
Mais vous avez, j'imagine, continué à travailler pour la mission interministérielle.
Je vous confirme.
En quoi ça a consisté? Quelle était votre mission pendant ces semaines?
Oui, alors, effectivement, on a travaillé de manière acharnée, pas seulement moi, également mon équipe et les différents services de l'État. Il y a principalement deux choses qui nous ont beaucoup occupés. La première, c'est l'instruction, justement, de l'arbitrage qui a été proposé ensuite au cabinet et au ministre, l'instruction concernant la deuxième tranche du prêt garanti par l'État. Donc l'instruction, la proposition en interministériel, puis ensuite la mise en œuvre de l'arbitrage. Donc ça a occupé de longues heures. Concrètement, de quoi il s'agit? Vous le savez, il y avait eu une convention passée en mars 2025 entre l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui prévoyait que l'État puisse accorder un deuxième prêt garanti par l'État de 28,8 milliards de francs CFP, donc 240 millions d'euros, sous réserve que des engagements pris par la Nouvelle-Calédonie aient été respectés. Donc l'arbitrage qui a été pris par le gouvernement national a été de verser la deuxième tranche, donc l'intégralité des...
Qui était attendue.
Voilà, parce qu'effectivement, sinon, c'était rupture de trésorerie. Hein. Mais ça, c'est vrai depuis l'an dernier, c'est-à-dire que sans le soutien de l'État, le territoire ne peut plus, en fait, c'est le principe d'un déficit, ne peut plus assurer sur l'année entière toutes ces politiques publiques. Donc l'État, le gouvernement national a fait le choix de verser les 240 millions d'euros, considérant que même si tous les engagements qui avaient été pris n'avaient pas été pleinement respectés, il y avait quand même eu des efforts très significatifs faits par le territoire, par le gouvernement, par le Congrès, notamment avec l'adoption d'un plan de réforme, avec tout un tas de mesures qui ont été prises et faites pour la Nouvelle-Calédonie par les Calédoniens. Et par ailleurs, le gouvernement national n'a pas souhaité pénaliser la population de la Nouvelle-Calédonie, d'où la décision de verser les 28,8 milliards de francs CFP et d'en flécher 2,5 milliards sur la vie quotidienne immédiate des Calédoniens, notamment cantines scolaires, transports scolaires, actions sociales de proximité, CCAS, associations, actions pour la jeunesse.
Donc notamment à destination des communes, mais pas seulement, pour toutes les collectivités qui assurent ces missions, en fait.
C'est ça. Mais ça, c'est selon une répartition qui va devoir être décidée par les élus du territoire d'ici le 17 octobre.
Et si le plan adopté par les élus du Congrès n'avait pas satisfait le gouvernement national, l'État n'aurait pas versé la deuxième tranche, on aurait été en cessation de trésorerie.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était une partie très significative des engagements qui avaient été pris par la Nouvelle-Calédonie en mars 2025. Donc effectivement, le fait qu'il y ait pu y avoir un sens des responsabilités qui a conduit à se rendre compte de la situation financière et à travailler sur un plan d'action, ça a sans doute pesé très lourd, évidemment, dans la décision d'accorder la deuxième tranche. Enfin, c'est même certain. Je tiens quand même à préciser, et ça c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs sur le sujet en Nouvelle-Calédonie, l'État ne dicte rien.
C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'effectivement, c'est la petite musique. Est-ce que c'est une mise sous tutelle de la Calédonie, c'est-à-dire que l'État nous dit ce qu'il faut faire et que
absolument
si
pas.
On fait bien, on nous donne de l'argent, sinon on ne le donne pas. Quelle est la liberté aujourd'hui des élus calédoniens pour déterminer...
Elle est totale, par définition, puisque ce sont des élus. L'État ne dicte rien, c'est-à-dire que le plan d'action, le contenu du plan d'action, était complètement et reste complètement à la main des élus calédoniens. La seule demande qui avait été celle de l'État, c'était qu'il y ait un plan d'action qui redresse la situation financière. Ce qui est une demande qui me semble raisonnable, puisque quand on dit c'est l'État qui finance, qui fait des prêts, c'est à moitié vrai. En fait, c'est le contribuable national. C'est le contribuable de Paris, de Limoges, de Bures-sur-Yvette, de Mamoudzou, de Cayenne, qui payent concrètement pour venir en appui de leurs compatriotes de Nouvelle-Calédonie. Donc, et il y a aussi beaucoup de réformes qui sont prises au niveau national, parce que le pays, de manière générale, est dans une situation compliquée. Donc, on demande des efforts aux Français en général. Et donc, c'est ça la logique de dire il faut également qu'il y ait des efforts faits en Nouvelle-Calédonie. Mais l'État ne dicte absolument pas le contenu des réformes à prendre. Il est là en appui, en expertise technique, mais il ne se substitue en aucun cas aux compétences du territoire. Et j'ai presque envie de dire c'est l'inverse. C'est-à-dire que la logique de la mission interministérielle et la logique de l'État, c'est d'aider le territoire à se redresser pour retrouver une santé financière et pour pouvoir à nouveau exercer ses compétences. Donc en fait, c'est l'inverse d'une mise sous tutelle, c'est un appui pour pouvoir à nouveau exercer ses compétences. Parce que, et je terminerai là-dessus, malheureusement, le déficit de la Nouvelle-Calédonie, il n'est pas récent. Il ne date pas des émeutes de 2024.
Il a quand même été très aggravé par la situation
aggravé,
de 2024.
Hein. Très aggravé. Mais même sans les émeutes de 2024, il y aurait eu une cessation de paiement en août 2024. Même sans les émeutes de 2024. Il y avait un déficit structurel avant 2024. Bien sûr, les émeutes ont eu un effet catastrophique sur l'économie, je ne dis pas l'inverse, mais ça a aggravé une situation qui était déjà fragile. Vous le savez, le nickel, qui est un poumon économique en Nouvelle-Calédonie, en tout cas la transformation du nickel, est en déficit depuis très longtemps. La dernière année de rentabilité d'une usine de transformation du nickel sur le territoire, c'est 2012. Donc voilà, c'est...
D'où la nécessité de refonder, puisque c'est le terme utilisé, hein, le modèle économique et social. Alors, est-ce que le travail de la mission interministérielle s'inscrit dans le cadre de l'accord de Bougival? Est-ce qu'il s'appuie sur ce qui avait été décidé, puisqu'il y a, Il y a tout un chapitre sur la refondation économique et financière. C'est la base de votre travail, ce sont les grandes lignes que vous mettez en œuvre.
Alors, vous l'avez rappelé, la mission a été créée en juin 2024.
Avant Bougival.
C'est ça, donc avant Bougival. Néanmoins, Bougival vient préciser la feuille de route de la mission, puisqu'il y a effectivement tout un chapitre consacré à ça, qui précise bien que la mission va être en appui du territoire pour élaborer un pacte de refondation économique et financière. Et ça, concrètement, c'est redonner c'est à la fois, un, intervenir en urgence, on l'a dit, c'est nécessaire, et deux, donner de la visibilité, redonner un projet économique et une vision pour le territoire à 5, 10, 15 ans, que devront définir les élus et le monde socio-économique. Et la mission sera en appui. C'est, deuxièmement, participer, contribuer à l'élaboration d'une stratégie nickel qui devra aussi, évidemment, puisqu'ils en ont la compétence, venir des élus. Mais on le sait, aujourd'hui, sans le soutien financier de l'État, il n'y a pas de transformation de nickel en Nouvelle-Calédonie. Donc ça ne peut être qu'un partenariat qui doit venir des élus avec l'appui de l'État, si les projets industriels ont du sens. Mais on y travaille activement. On pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez.
Absolument.
Et enfin, il y a une troisième dimension qui est également très importante, qui est en quelque sorte le projet de société. C'est-à-dire tout ce qui est réforme structurelle de long terme, mais très importante. Santé, sociale, éducation, formation, jeunesse. Et là aussi, c'est aux élus calédoniens, avec la population calédonienne, de définir ce qu'ils souhaitent. Et nous, on est là en appui.
Justement, on va reparler de tout ça, et notamment alors, l'un des premiers points dans la refondation économique prévue par Bougival, c'était un assainissement des finances publiques et le redressement des comptes sociaux. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la situation était déjà très dégradée. Est-ce qu'on a avancé dans ces secteurs? Est-ce que vous en êtes où? Vous avez des pistes? Vous avez donné aux élus quelques conseils sur comment assainir les comptes publics, ou ils y ont travaillé eux-mêmes?
Alors, il y a déjà eu du travail qui a été fait sur le sujet depuis de longues années. Enfin, vous le savez, il y a eu des plans d'action, il y a eu PS2R, il y a eu le plan d'action travaillé par le gouvernement. Des rapports, il y en a plein les armoires en réalité. Il y avait même eu, lors des prêts garantis par l'État déjà pendant la période Covid, toute une liste de mesures avec leur impact chiffré qui avait été établie. Donc je pense que les mesures sont connues.
Mais elles ne sont pas encore en œuvre. Elles ne sont pas encore mises en œuvre.
Oui, parce que je comprends qu'il faut générer de l'adhésion autour du sujet. Et donc ça fait partie du travail des prochaines semaines, des prochains mois.
La question de la dette publique et de la soutenabilité de la dette, ça a été évoqué également. Et là, quelles sont les réponses à apporter? Généralement, vous le savez, on dit il suffit de transformer les prêts garantis en subventions et tout ira bien. J'imagine que ce n'est pas la réponse que vous apportez.
Je sais que certains, effectivement, disent ça, que c'est une demande qui peut être récurrente. Ça fait partie... Enfin, la question du désendettement et de l'apurement progressif des finances publiques est un des sujets qui sera étudié dans le cadre du pacte. Après, vous dire selon quelle modalité, c'est justement tout le travail qui va être fait dans les semaines qui viennent.
Mais vous avez commencé déjà, j'imagine.
Bien sûr.
Il y a déjà un plan de travail pour ce pacte qui a été mis en œuvre.
Alors, on a fait une proposition, c'est maintenant... Donc, on a fait une proposition... mais il faut que le Congrès, les provinces, les communes, le monde socio-économique, le Sénat coutumier, le CESE, adhèrent à, évidemment, le gouvernement en premier lieu, mais je crois que pour le gouvernement, c'est le cas, adhèrent à cette logique, ou proposent quelque chose de différent pour que, justement, on arrive à trouver la bonne organisation qui permette de trouver cette adhésion et donc de passer des listes de mesures à des réformes concrètes. Et ça, c'est vraiment un des objectifs prioritaires de mon déplacement actuel. Et donc, j'espère pouvoir repartir le 19 octobre, parce que j'ai un peu allongé mon séjour pour pouvoir aller aux îles Loyauté, notamment. Donc, j'espère pouvoir repartir. J'espère que quand je repartirai, tous les partenaires et les élus auront topé sur la méthode justement pour faire tout ce travail.
Voilà, parce qu'il faut traduire tout ça en textes qui
Exactement.
Seront ensuite soumis au Congrès. Le nickel, justement, vous en parliez, le plan stratégique pour la filière nickel, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est prévu par Bougival. Est-ce que c'est une priorité? On a envie de dire oui, je ne sais pas, sous votre contrôle. On parlait notamment d'une doctrine renouvelée avec la facilitation de l'exportation de minerais. Est-ce que des discussions sont en cours? Est-ce qu'on a avancé là aussi sur cette nouvelle doctrine qu'il faut mettre en place?
C'est évidemment une priorité absolue. Donc vous me demandiez, première question, c'était qu'est-ce qu'on avait fait pendant les semaines écoulées? Je vous ai parlé du PGE, mais on a fait beaucoup d'autres choses en réalité. On a eu beaucoup d'échanges à Paris, notamment avec les potentiels repreneurs, avec les administrations d'État concernées, avec des banques publiques, etc. Donc bien sûr que la stratégie nickel est une priorité absolue. Et ça va être une priorité absolue de ce déplacement. D'ailleurs, les deux membres de mon équipe qui s'occuperont des sujets nickel et énergie seront en Nouvelle-Calédonie à compter de la semaine prochaine. Et là encore, ce qui sera indispensable, c'est qu'il y ait un accord politique. C'est-à-dire que les élus qui ont la compétence, et on ne cherche pas à remettre la main sur la compétence du tout, les élus qui ont la compétence réfléchissent et élaborent avec notre appui, s'ils le souhaitent, une stratégie nickel. Donc là aussi, normalement, il devrait y avoir des échéances là pendant ce déplacement. En tout cas, bien sûr, c'est prioritaire.
Mais c'est au moins aussi politique qu'économique, ce secteur.
C'est une industrie. Donc pour qu'une industrie, elle fonctionne, il faut qu'il y ait une rationalité économique et industrielle. Quelque part, je pense que l'objectif du politique, c'est le développement harmonieux du territoire, la bonne gestion des ressources au bénéfice des populations, c'est très important. Les politiques publiques qui vont être mises en œuvre, normalement, ont vocation à permettre de retrouver une rentabilité économique. Donc les deux ne doivent pas être contradictoires.
La question de la transition énergétique est abordée quand vous parlez nickel, forcément ?
Forcément. Enfin, on en avait parlé en août dernier déjà. Nickel et énergie ont partie liée, c'est évident, vous le savez, en particulier en pyrométallurgie, les coûts de l'énergie sont une grosse partie des coûts de fonctionnement. Donc bien sûr, selon le coût de l'énergie que vous avez, vous êtes plus ou moins rentable. Et par ailleurs, à l'inverse, la Nouvelle-Calédonie, pour ses besoins en énergie, se repose beaucoup sur la production d'énergie des usines du territoire. Donc c'est imbriqué dans les deux sens. Et donc quand on regarde le sujet, on regarde les deux à la fois.
Alors, vous parliez des repreneurs. La mission interministérielle suit les dossiers de reprise éventuelle
en lien avec les autres services de l'État concernés, bien sûr. Oui.
Et de la SLN aussi, ou quelle est la volonté de l'État concernant
On regarde tous les sujets.
Alors, autre point de la refondation, vous y faisiez allusion également, la construction d'un projet de société. Alors là aussi, tout à l'heure, le nickel, c'est à cheval sur les deux. Le projet de société, c'est aussi de votre ressort ou ça
dépend
vraiment.
C'est du ressort du territoire.
Ça ressort vraiment des élus ou de la société civile calédonienne.
Mais comme tout ce que j'ai évoqué, c'est du ressort du territoire, des élus et de la société civile calédonienne. Nous, on est entre guillemets juste en appui, en expertise et, le cas échéant, en financement si le gouvernement national et le Parlement le décident. Mais oui, c'est dans les mains des Calédoniens et des Calédoniennes.
Alors, parmi les autres choses que vous avez faites ces dernières semaines, vous deviez mettre en place des équipes.
Oui.
À Nouméa et à Paris. Ça y est, c'est fait.
C'est fait.
Alors, où est-ce que vous les avez trouvées? Comment vous avez procédé? Et quel est peut-être le profil de ces personnes qui vont vous accompagner dans cette mission?
Oui. Alors déjà, j'en profite pour les remercier d'avoir accepté de relever ce défi, qui est très exigeant, mais qui est très important pour nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie. Donc je les remercie. Le profil, c'est des personnes déjà qui sont animé par un grand sens de l'intérêt général de la République et qui sont très motivées et qui sont très expertes, chacune dans leur domaine. Donc il y a 10 personnes qui couvrent tous les champs que j'ai évoqués précédemment. Donc je l'ai dit, il y a deux experts, très experts, sur les sujets énergie et nickel. Il y a aussi des experts, très experts également, sur les sujets des comptes sociaux, de la santé, de la protection sociale, de la jeunesse. Il y en a d'autres qui sont très experts des sujets d'investissement, public ou privé, économie, macroéconomie, finances publiques, statistiques, et également sur les sujets d'aménagement du territoire, agriculture, économie bleue. Donc, ils viennent un peu de tous les ministères, de toutes les administrations d'État, pour la plupart, hein, puisque c'est bien une mission de l'État. Donc les agents de la mission sont des agents, quand ils sont au sein de la mission, des agents de l'État. Donc comment ils ont été recrutés, ils ont postulé et puis ensuite voilà, c'est assez classique comme procédure de recrutement. J'ai regardé les CV, j'ai conduit des entretiens et puis voilà, on a fait tout ça très vite et ils sont désormais à pied d'œuvre. 4 à Nouméa, 6 à Paris, et ceux qui sont à Paris font des déplacements réguliers sur le territoire.
Et ceux qui sont à Nouméa, ce sont des Calédoniens ou ce n'était pas un critère forcément?
C'est des personnes...
Ils habitaient ici, enfin, ils travaillaient ici déjà et vous les avez recrutés sur place?
Oui, c'est ça. Oui.
Et alors vous êtes en contact régulier avec eux et...
Bah, c'est mes équipes.
Donc... Et vous-même, vous allez faire des allers-retours comme ça en permanence?
Absolument, oui.
Pendant ce séjour également, c'est peut-être un peu nouveau par rapport à la dernière mission, vous avez fait beaucoup de terrain, non?
Oui.
Où est-ce que vous êtes allé? Qui vous avez vu et...
Oui, c'était très important pour moi, parce que déjà, ça nous rappelle pour qui on fait tout ça. Et puis, ils ont toujours des suggestions et des remarques qui sont très importantes pour bien comprendre la situation et donc bien adapter les réponses. Donc, où je suis allée à ce stade, au Tour Magenta, à une soirée, un événement organisé par les Kimonos du Cœur, qui font un travail formidable. Vraiment, je souhaite rendre hommage à tous ces bénévoles qui font vivre le lien social, qui redonnent de l'espoir aussi, qui montrent tout ce qui est possible en Nouvelle-Calédonie et tout ce qui marche bien en Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est très important de dire aussi quand ça marche bien, il y a des choses qui marchent très bien ici. Je suis également allée à la station N à l'invitation du gouvernement. C'était un événement organisé avec la province sud pour entendre les entrepreneurs au féminin calédonienne. Et donc ça, c'était également très important parce qu'on a besoin de l'énergie des entrepreneurs et des entrepreneuses. On a besoin de leur énergie, de leur investissement dans tous les sens du terme et de leur courage aussi parce qu'il en faut et elles en ont. Et puis je suis allée aussi ce matin, je l'ai dit
à
Blue Paris, rencontrer, échanger surtout avec des agriculteurs qui sont aussi remarquables et d'engagement et d'expertise. Notamment il y avait un éleveur qui tout un cheptel et qui font tout à deux, donc ça demande beaucoup beaucoup d'engagement. Et vraiment, je tiens à dire qu'il y a, et c'est un peu le message aussi que je souhaiterais passer aujourd'hui, il y a énormément de compétences, il y a énormément d'énergie, il y a énormément de bonne volonté en Nouvelle-Calédonie, et moi je crois complètement à la capacité de ce territoire à rebondir. Il l'a déjà fait par le passé et il le refera, c'est certain.
C'est l'une des questions. On a quand même un petit peu l'impression, je vous le disais tout à l'heure, on a un peu l'impression de faire du surplace. Il y a des rapports, vous le disiez, des tonnes de rapports, il y a des visites, des gens qui viennent, qui se penchent au chevet de la Calédonie. Mais est-ce que tout ça, ça avance vraiment? Et est-ce que vous, vous avez une idée du moment où ça va décoller? Où ça y est, la Calédonie sera sortie d'affaires, on dira ça y est, on a les réponses et on peut repartir?
On ne le saura qu'une fois que ça sera effectif, mais ça a déjà, comment dire, je veux pas que ce soit mal interprété, évidemment que la situation économique actuellement n'est pas bonne, ça je dis pas le contraire, mais il y a déjà des entrepreneurs qui réinvestissent, qui ont des projets, qui se relancent, et l'idée c'est juste d'aller maintenant le plus vite possible créer un choc de confiance. C'est aussi l'objectif de la mission, de montrer que la solidarité nationale est là. Si le gouvernement, le niveau national ne souhaitait pas accompagner la Nouvelle-Calédonie, la mission n'aurait pas été créée, on n'aurait pas mis 10 personnes, on n'aurait pas... Voilà, donc je pense que c'est important d'être persuadé que ça va repartir, que ça... Déjà, il y a eu un frémissement en juillet. La confiance du monde économique en juillet, telle que mesurée par l'UOM, elle est remontée à des niveaux plus élevés que ce qu'on avait encore avant les émeutes.
Après la signature de Bougival.
Tout à fait. Donc ça montre bien qu'il manque pas grand-chose pour que ça réenclenche en réalité. Et c'est notre rôle collectivement de dire ce qui va bien, d'avancer et de tout faire pour que ça reparte le plus vite possible.
Mais il y a aussi, et vous le savez, quiconque, toute incertitude politique, qu'elle soit en Calédonie avec les incertitudes autour du Bougival ou en métropole où il n'y a toujours pas de gouvernement constitué, tout ça, est-ce que ce n'est pas un obstacle quand même à la confiance, à la reprise, à la relance? Est-ce que c'est un élément que vous devez prendre en compte également, vous?
Alors, évidemment, mais ça, vous l'avez dit, c'est vrai partout. C'est vrai au niveau national, c'est vrai ici. L'incertitude est mauvaise, nocive pour l'économie. Elle est nocive pour la confiance des ménages, pour la confiance des entreprises. Pour autant, il ne faut pas attendre d'avoir tout réglé sur les sujets, sur tous les sujets pour avancer. La mission, ne s'occupe pas d'institutionnel. Il y a plein d'autres personnes très compétentes et très acharnées qui s'en occupent. Et donc, pour ce qui me concerne, pour l'économique et le social, on avance.
Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, vous avez encore, vous restez jusqu'au 19 octobre, avez-vous dit. Il y a d'autres déplacements prévus, d'autres rencontres particulières qui sont à votre agenda?
Oui, bien sûr, beaucoup. Notamment, j'aurai l'occasion d'aller dans le Nord. C'était important, c'est important, je le disais, le terrain, se rendre compte sur place pour ne pas faire des recommandations au gouvernement national qui soient déconnectées. Donc c'est très important. Je le disais, j'irai aussi aux îles Loyauté. J'aurai d'autres moments d'échange avec des habitants. Et puis, bien sûr, énormément d'échanges avec les élus qui ont le sort du territoire dans leurs mains. Et c'est normal, c'est la démocratie. Et également des rencontres avec le monde économique.
Eh bien, avant votre départ, si nous pouvons faire un bilan de votre séjour, ce sera avec plaisir. En attendant, merci Claire Derieux d'avoir accepté votre invitation dans ce magazine.
Merci à vous.